Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Salut à tous, c'est Kevin. Mais qu'il est beau ce jingle. Ah, ça fait, c'est vraiment un vrai plaisir. Merci Jérôme.
Tu t'en bourgeoises, je trouve.
Ah ouais, là franchement, ça m'a fait une petite surprise là. Non, c'est vachement cool. Bon, eh ben vous êtes sur RKS hein, pour votre émission Rien à foutre, comme le jingle l'a dit. L'émission qui vous informe sur l'actualité footballistique en Isère. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour parler football et mettre en lumière nos clubs amateurs. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une émission absolument exceptionnelle. Ça fait des semaines que je la prépare, cette émission, et je suis très heureux d'être avec vous sur RKS pour vous la présenter, puisque je reçois Christophe Cuina, le mythique entraîneur du FC Vallée de la Grèce. Donc effectivement, on va faire une émission comme d'habitude en deux temps. Pendant la première mi-temps de cette émission, je serai avec Christophe, qui viendra nous exprimer de vive voix pour la toute première fois depuis l'annonce, de son départ du Vallée de la Grèce en fin de saison. Donc on parlera bien sûr de sa carrière, de son parcours, et il nous glissera peut-être 2-3 infos exclusives pour la suite, on verra. Mais avant tout cela, on part s'échauffer tous ensemble avec les principales actualités footballistiques de la semaine. Vous êtes sur RKS, bienvenue dans Rien à foutre.
RKS, l'esprit grenoblois.
Et on part faire un tour du côté de Cessiné, où je reçois Mathieu Sciency, qui vient débriefer avec nous le match de son équipe contre Crest Aoust. C'était dimanche hein, dernier. Salut Mathieu.
Salut Kevin.
Tu vas bien?
Bah écoute, ça va.
Soulagé, hein, j'ai appris que le match était un peu compliqué. Victoire 2-1.
Ouais, on est dans une phase délicate. Hein, mais tu sais, je pense que l'invité que tu as en plateau ne me démentira pas. C'est jamais évident d'être en haut et d'être attendu chaque week-end. Donc les matchs sont de plus en plus compliqués. Et puis la nervosité gagne un peu les rangs. Donc c'est des scénarios de plus en plus durs à assumer. Voilà, mais bon, l'essentiel est fait quand même.
Et comment ça s'est passé du coup? Raconte-nous un peu ce match.
Bon, écoute, on mène 1-0 avant la mi-temps. Ils ont une expulsion juste avant le but. Et puis à partir de là, bah eux se sont clairement disputés dans leur vestiaire. Enfin, ça a été très compliqué pour la mi-temps. Ils sont à 10, donc nous on rentre un peu perdu, en se demandant un peu ce qu'on fait là. Et puis là, on perd un peu le fil du match. Et puis sur une énième attaque rapide, ils nous plantent un but. Et heureusement, par chance, il reste 20 minutes à ce moment-là et on arrive à repasser devant. Mais on a même un vide entre les deux où on peut à mon avis le perdre. Mais voilà, la différence avec Coach Haute, c'est qu'on l'a pas encaissé à la 95e. Et ça nous a aidé à réagir.
Bon, bah, c'est super, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun match facile hein, de toute façon à ce niveau-là. Puis quand on est favori, les équipes ne vous font pas de cadeaux. Hein, donc effectivement.
Ouais, après, je pense que Vinicius est en train de clairement montrer que c'est eux le vrai favori. Voilà, là, ils ont fait preuve de grande maturité sur deux matchs compliqués à l'extérieur. Je pense qu'ils ont les joueurs et puis certainement l'infrastructure pour durer dans le temps. Donc nous, je pense qu'il faut qu'on prenne chaque match les uns après les autres en disant que c'est du bonus et pas s'enflammer dans un objectif qui pour le moment, même si sur le papier il peut paraître réalisable et peut-être aussi un peu rapide pour le club à mon avis, mais voilà, il faut qu'on prenne les matchs les uns après les autres.
Tout à fait, bah, je suis d'accord avec toi. Et du coup, au niveau du prochain adversaire, est-ce que tu peux nous en parler?
Bah oui, on se déplace à Mott la semaine prochaine là, donc ouais. Match compliqué, voilà, sur un terrain certainement compliqué, avec un public qu'on sait toujours très très présent. En plus, ils viennent de perdre leurs deux derniers matchs alors qu'ils avaient très bien repris, donc ils reglissent dans cette poule très vite vers le bas. Donc voilà, et puis nous on a pas mal de pépins physiques, surtout dans le secteur défensif, donc on compose un peu actuellement et on sait que ce sera compliqué, mais bon. Il faut passer par là et on verra.
Voilà. Bah écoute, j'espère que vous arriverez à enchaîner. Donc du coup, après cette victoire 2-1 à domicile, ça fait un moment que vous n'êtes pas allé à l'extérieur en plus, hein, donc ça risque d'être compliqué. Hein.
C'est ça, c'est très compliqué dans notre championnat. On a fait beaucoup d'extérieur au début, beaucoup de domicile maintenant. C'est un peu compliqué, mais on va retrouver un rythme plus normal bientôt.
Eh ben écoute, pas de souci. Bah tu viendras nous débriefer du coup ce match-là la semaine prochaine. Je te souhaite une très bonne semaine, Mathieu.
Merci, bonne émission. Et puis, petit message perso, même si on s'est pas beaucoup fréquenté dans l'intimité pour ton invité du jour, puisque je pense que on peut être qu'admiratif d'une telle longévité dans un club où on sait qu'il faut être un petit peu au four et au moulin pour exister. Donc, un petit bravo personnel à Christophe et puis au plaisir de le retrouver sur les terrains.
C'est gentil, Mathieu.
Je t'en prie.
Ça fait plaisir.
Allez, salut. Allez, Mathieu, merci.
Bonne émission.
Merci. Ciao.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Mais je ne m'en remets pas de ce jingle, c'est magnifique. Bon, allez, on va du coup passer directement à l'interview avec Christophe Cuina. Salut Christophe.
Bonjour.
Je suis ravi de t'avoir avec moi. Bon, on se connaît un petit peu tous les deux, donc ça va être une interview détente, hein, parce qu'on on s'est déjà fréquenté dans le passé. On se fréquente toujours un petit peu au sein du club de la Vallée de la Grèce. Donc, bon, moi, on va attaquer direct par le sujet du jour qui est ton départ.
Oui, j'ai annoncé à mon club il y a 15 jours de ça, 3 semaines, comme quoi j'ai arrêté au mois de juin à la Vallée de la Grèce, parce que bon, ça fait quand même 18 ans que je suis entraîneur dans ce club. J'arrive à un moment maintenant où je veux un nouveau challenge, essayer de trouver d'autres ambitions, d'autres projets sur un club qui voudrait bien de moi, tout simplement.
Oui.
C'est pour ça que j'ai pris un peu mes devants avec le club, parce que je ne voulais pas non plus le laisser... leur annoncer ça un mois avant la fin du championnat, qui après qui galère pour trouver un remplaçant. Donc je me suis bien pris de bonne heure, comme ça, ça permet déjà de chercher un entraîneur.
Ouais.
Et puis en même temps, pouvoir des fois travailler avec lui pour lui préparer la saison prochaine.
D'accord, ok. Bah, moi, je t'avoue que ça a été un choc hein, pour moi, cette nouvelle, parce que moi, je pense qu'avec le temps, j'étais un peu comme les autres. On s'était dit peut-être que tu finirais ta carrière là-bas, comme Alex Ferguson ou Giroud. Et finalement, tu as pris cette décision de quitter ton poste à la fin de la saison. Et est-ce que c'était quelque chose qui te trottait dans la tête depuis un moment, ou est-ce que ça a été plutôt récent ?
L'année dernière, en commençant au mois de septembre, je me suis posé des questions pour cette année déjà. J'ai dit, bon, je vais quand même faire encore une année. J'ai été très déçu de la saison dernière, où j'ai eu des joueurs où j'avais beaucoup d'affinités avec eux. J'étais très affectif par rapport à eux et qui m'ont lâché pour partir dans des clubs voisins ou même un peu plus loin.
Ouais.
J'ai pris un petit coup au moral là-dessus. Donc, je me suis dit, bah, tant pis, allez, remotive-toi, repars comme il faut avec la Vallée. On est bien reparti avec les joueurs qu'on avait voulu rester. On est en train de faire une saison correcte, malgré le manque de moyens, malgré le manque de quantité de joueurs. On est quand même 8e à l'heure actuelle avec un match de retard. Donc, on fait une grosse saison. Mais j'en arrive à, maintenant, comme j'ai dit, j'arrive à un moment où il faut que je trouve un autre challenge pour essayer de me remotiver, puis surtout de me remettre en question, parce que je suis un peu trop dans facilité dans ce club.
Ouais.
J'ai les clés du club avec un bureau qui m'aide, un bureau qui est toujours derrière moi, mais j'ai les clés, je fais un peu comme je veux, donc j'aimerais avoir un peu plus de stress, de
te mettre de tension, un petit peu en danger.
Me mettre un peu la pression pour que... Justement, peut-être que je modifie ma façon de faire, peut-être aussi que je change un peu ma façon de travailler aussi, puis plein de choses comme ça.
D'accord, ok. Bah, écoute, je trouve ça très, très courageux, hein, en tout cas, parce que c'est jamais évident de vouloir recommencer.
C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, quand j'ai annoncé ça à mon club, ça faisait drôle. On aurait dit que je quittais une famille, on aurait dit que je me séparais même de ma femme.
Ouais.
Parce que 18 ans avec les mêmes personnes, avec... des gens qui sont bénévoles pour ce club, ça fait drôle de leur dire « j'arrête au mois de juin ». Ça a été très dur parce que j'ai passé une nuit où je n'ai pas dormi.
Ouais.
Bon, maintenant, je me dis, j'ai fait passer le message. Ils sont en train de travailler pour trouver mon remplaçant. Et puis moi, j'essaie de finir le mieux possible cette saison en sauvant l'équipe première, l'équipe 2 et l'équipe 4. Parce que bon, l'équipe 3, je pense qu'on sera un peu en difficulté.
D'accord, ok. Bah, écoute, moi je te propose qu'on en reparle dans quelques minutes parce que j'aimerais qu'on vienne un peu sur ta carrière de joueur, d'entraîneur. Donc moi j'aimerais que tu nous présentes déjà aussi un peu ton parcours pour les peu de footeux isérois qui ne connaissent pas Christophe Cuina.
Ben, j'ai attaqué en débutant donc à 5 ans et demi au Gars. C'est une commune à côté de Vif, qui est à 4 km de Vif.
Donc, bah, qui fait partie maintenant du club
Qui fait partie de la club de Vallée de la Grèce. Donc j'ai attaqué là-haut jusqu'à, je crois, l'âge de minime. Ça s'appelait minime avant, parce que maintenant ça s'appelle U13 ou je sais plus, ou 15 comme ça. C'était des minimes, donc en minime, je suis parti au FCG à Grenoble, où j'ai fait 4 saisons en minime, 5 saisons. J'ai fait 2 années minime, 2 années cadet et 1 année junior, ils appellent ça. Donc j'étais sous les ordres de Roger Garcin, qui est encore au GF38.
Oui.
Un entraîneur qui m'a tout appris, un entraîneur qui assume me faire progresser. Et puis en junior, ça s'est mal passé parce que je n'arrivais pas à passer ce cap. Du coup, je suis revenu au Gars, qui était en niveau PHR. Donc, j'ai fait mes 3 années là-haut au Gars, où on a eu un parcours en Coupe de France contre Istres, une Ligue 2, au 7e tour, qui avait attiré plus de 2500 personnes. Et puis, bah, grâce à cette Coupe de France, grâce à ce parcours qu'on a fait, il y a des clubs qui ont commencé à me contacter, dont le FC Jojo par l'intermédiaire de Mickey Selman, qui m'a contacté pour venir jouer en D4, niveau CFA2 maintenant, niveau National 3 maintenant, à l'heure actuelle. Donc, je suis allé au FC Jojo, un club de quartier de TCR, où il y avait, un bureau qui était vraiment bien, avec des joueurs à caractère, avec en plus un peu un club de quartier, donc qui faisait très réputé par notre agressivité, notre combativité, tout le reste. Ça nous a permis de jouer 2 ans en 4e division, de louper la montée 1 année en 3e division pour un match, parce qu'on n'est pas allé jouer, parce que bon, c'est des histoires de sous.
Oui.
On va revenir là-dessus. Voilà, puis après, du coup, Chambéry m'a contacté. Ils étaient en honneur.
Oui.
Donc, j'ai pris le risque de faire la route. Ça faisait quand même 4 entraînements par semaine, plus le match le week-end. Mais ça m'a permis de sortir un peu de Grenoble, de connaître un peu la mentalité savoyarde qui est exceptionnelle.
Oui.
Parce qu'on a affaire à des gens adorables, qui sont très conviviales, très bringueurs aussi,
il
faut le dire. On a passé des bonnes soirées.
Ouais.
Et puis j'ai fait 2 années là-haut, où on s'est régalé, on a gagné la Coupe Rhône-Alpes,
ouais.
ce qui n'était pas arrivé dans la région là-haut, je crois, depuis longtemps.
Ouais.
Et puis après, moi, je suis arrivé à un âge où j'avais 26 ans, je crois, à peu près, je ne me trompe pas. Pareil, il y avait Mickey Selman qui était à Vorep, entraîneur, qui m'a contacté, m'a dit, viens chez nous, en zone régionale, on va essayer de faire quelque chose avec un peu les gens du cru, les joueurs du cru, avec d'autres 2-3 recrues autour, et on va essayer de monter. Donc je suis parti à Vorep où pareil, j'ai connu un super club avec un président Terrer qui était à la tête, qui tenait un peu tout ce club. On a passé des moments aussi inoubliables avec un 7e tour à Grenoble contre l'Ajaccio, on a perdu aux prolongations. Et puis après, j'ai commencé à me dire, vu que j'aime bien le football, je vais me lancer comme entraîneur.
Ouais.
Donc à partir du moment que j'ai voulu me lancer comme entraîneur, il y a une équipe de Ponclé qui s'appelait Rhône Poulenc Ponclé.
Ouais.
Qui m'ont contacté pour venir prendre l'équipe qui était en promotion d'excellence en ce temps-là. Ça s'appelait promotion d'excellence, oui. Maintenant ça s'appelle le D2. Par les frères Arrête, là, qui m'ont appelé, qui m'ont dit ouais, on a approché, arrivé dans 4-5 ans en ligue, avec toi à la tête, avec des joueurs que tu as cherché toi. J'ai cru en ce projet, j'y suis allé. En plus, j'habitais Ponclé, donc ça me rapprochait de chez moi. Ça me permettait d'être un peu plus souvent avec ma famille.
Oui.
Voilà, puis je me suis lancé dans le grand bain d'entraîneur que j'avais aucune connaissance. J'ai pris un peu tout ce que j'ai connu avec Mickey Selman, tout ce que j'ai connu avec d'autres entraîneurs. Et j'en ai fait mon mi-temps maintenant.
T'as toujours voulu être entraîneur ou c'est un peu venu comme ça?
Non, c'est venu comme ça.
Ouais.
Franchement, je ne pensais pas être entraîneur. Et puis je suis parti entraîneur-joueur. J'ai commencé à jouer, à entraîner en même temps. Puis j'ai vu que ça m'intéressait. Du coup, j'ai continué.
D'accord, ok. Du coup, tu as passé des diplômes
J'ai passé des diplômes et tout, mais en 2002, donc j'avais le BE, on appelle ça le BE, maintenant ça s'appelle le BEF.
Ouais.
Voilà, donc maintenant je me régale. Malgré toutes mes années, ça fait 26 ans que j'entraîne.
Ouais.
Donc j'ai fait 8 ans à Rhône-Poulenc, puis après la Vallée d'Agresse m'a contacté avec un autre club. Il a fallu faire un choix difficile parce que les deux clubs étaient un peu équivalents, se ressemblaient. En plus, je connaissais bien ces deux clubs, donc j'ai fait un choix qui était plus de revenir un peu à mes sources. Donc j'ai préféré revenir à la Vallée de la Grèce et puis d'entraîner ce club. Alors j'ai commencé, puis je me suis dit 2, 3, 4 ans. Et puis on est resté en Ligue, après on est monté en R3, après on est monté en R2, on est redescendu. On s'est maintenu 3-4 années, on est remonté en R2, 5 ans.
Ouais.
Et là on vient de descendre en R3, et puis ça fait 18 ans que je suis au club.
Quelle histoire, quel parcours riche.
Ouais, c'est riche, mais bon, il n'y a pas non plus, c'est juste un niveau amateur. Hein. Je ne sais pas, comment on dit, on peut me comparer à des Giroud et tout ça, mais je n'ai pas les compétences qu'ils ont eux.
Ouais.
Je suis un simple entraîneur de ligue, je suis très bien dans tous ces clubs que je suis passé. J'ai gardé beaucoup d'amis de partout, que ce soit en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. J'aime bien retourner d'où je viens aussi, j'aime bien aller à Vorep, à Chambéry, retourner même rencontrer encore les anciens des Jojo, quand on se rend compte, c'est un grand plaisir parce que c'est des souvenirs énormes.
Ouais. 18 ans n'empêche à la Vallée, moi qui en ai 27, je t'ai toujours connu entraîneur de la Vallée quasiment, donc c'est quand même pas rien. Hein. Comme tu disais, c'est un peu comme quitter une famille ou c'est vrai que dans une relation, entre guillemets, même amoureuse, il y a des relations qui durent moins longtemps hein, que ça. Donc c'est normal que ça.
Puis ça coûte plus cher, les relations, si c'est une relation amoureuse. Là, elle ne coûte pas cher, cette relation.
Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu justement de ton implication au club de la Grèce parce que Franck, c'était mon premier invité pour cette émission. Il en a parlé, il a parlé longuement de ton rôle et il a dit qu'effectivement, tu t'impliquais vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu avais la responsabilité de ton équipe 1, mais tu avais aussi la responsabilité de l'équipe senior. Tu t'impliquais aussi beaucoup dans les manifestations du club. Tu avais aussi un petit peu ton mot à dire. J'aimerais bien que tu nous en parles.
Ouais, je suis l'entraîneur de l'équipe première. Je suis responsable technique des 4 équipes, plus les U18 que je viens voir un peu jouer le samedi pour voir un peu s'il y a des joueurs à prendre des fois pour le week-end. Ensuite, derrière un club, il faut que ça vive. Un club, il faut qu'il fasse des manifestations pour remplir un peu les caisses parce que les mairies ne donnent pas assez au club. Donc, il faut faire des grosses manifestations. Oui. Quand je vois tous ces bénévoles, comme la ferme de L'Oréal qui arrive le 22 mars, quand je vois tous ces bénévoles qui travaillent et qui sacrifient un peu leur vie familiale, qui sacrifient aussi leur temps de loisir pour faire travailler pour le club, je me dis, moi, en tant qu'entraîneur, vu que j'ai quand même un salaire chaque mois, je me vois mal arriver au stade, mettre les mains dans les poches et puis d'attendre le week-end. Et puis voilà. Du coup, à côté, je fais plein de choses. Je donne un coup de main pour les montages, je donne un coup de main pour les démontages au loto, c'est moi qui fais le micro. Je me régale à faire ça parce que j'ai toujours été un peu comme ça. J'aime bien toucher à tout. J'aime pas avoir juste un poste fixe et puis se dire je sors le violon, je m'entraîne et puis je forme une équipe et c'est tout. À côté, il y a une vie dans ce club et cette vie, il faut que l'entraîneur de l'équipe première, il faut qu'il soit exemplaire pour que tout le monde le suive. D'ailleurs, du coup, mes éducateurs seniors font un peu comme moi, les éducateurs des jeunes aussi. Ça donne un élan au club qui fait vivre ce club. Parce que comme je t'ai dit, le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas trop compter sur les mairies parce que financièrement, elles ne donnent pas beaucoup.
Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rester aussi longtemps? Parce que je pense qu'on se pose tous un petit peu la question de se dire, bon, je remplis une année. Puis c'est quand même assez rare qu'on est quand même dans un club, dans un département où tout le monde se connaît, où on est sans doute démarché aussi régulièrement, les joueurs, mais même aussi les entraîneurs. Je pense que tu as eu, même au cours de ton parcours à la Vallée, tu as peut-être eu d'autres propositions à un moment. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté?
Je suis resté parce qu'on reste où on est bien.
Ouais.
Je suis très bien dans ce club. Que ce soit avec le premier président, parce que j'ai quand même passé 3 présidents. Donc c'est rare, d'habitude on fait plutôt 3 entraîneurs ou 4 entraîneurs et un président. Moi j'ai fait l'inverse.
Ouais.
Donc 3 présidents et un entraîneur. Mais que ce soit le premier, M. Borel, le deuxième, Damien Fossa, ou le troisième, Franck Agassi. Les 3 ont une façon de travailler différente, mais je me suis adapté à eux. On a eu des très bonnes relations, jamais de tension. J'ai eu des moments difficiles où j'ai été suspendu, ils ont toujours été derrière moi à me soutenir. J'ai eu aussi une descente de R2 à R3, une descente de R3 en district. Jamais ils m'ont mis, une pression, jamais ils m'ont dit si ça passe pas les prochaines, on te vire. Au contraire, ils ont eu confiance en moi, ils m'ont donné les clés du club. Donc, quand vous voyez des gens comme ça, qui, avec un bureau qui vous donne confiance, c'est pour ça qu'on reste là-bas. Après, il y a aussi, à côté de ce club, il y a aussi la convivialité, il y a une animation qui font qu'on y va avec plaisir. C'est un grand plaisir d'aller dans ce club, parce qu'il n'y a pas que le foot, il y a tout ce qui tourne autour. Après, pour tout dire, c'est qu'on a pris ses habitudes d'être là-bas, et puis personne ne te contacte non plus, parce que... Comme tout le monde sait que tu es très bien là-bas, du coup, personne ne te contacte. Du coup,
c'est ce que je disais, tout le monde pensait en fait finalement que tu resterais là-bas.
En 17 ans, on ne m'a jamais appelé pour me dire « Christophe, est-ce que ça t'intéresse de venir ailleurs ?»
Ouais. Et depuis du coup que tu as annoncé ton départ, tu as eu pas mal de coups de fil ?
Non plus.
Non plus.
C'est extraordinaire.
Ah ouais ?
Ouais.
Bah écoute.
Comme quoi, je ne dois pas être si bon que ça.
Ou peut-être que c'est un signe pour que tu restes.
Non, c'est ce que on a parlé hier soir avec mon président là, autour d'un verre, on discutait, puis il me disait « Mais tu as eu des contacts ?» J'ai dit « Bah non, pas du tout. » Puis il me dit « Bah alors, tu vas faire quoi ?» J'ai dit « Bah, je vais trouver une autre occupation. S'il n'y a pas de contact, c'est pas un problème. Hein. » Il y a autre chose dans la vie. Je lui ai dit, je peux des fois faire délégué de match carrément. Parce que j'ai vu que c'était un bon petit job.
Oui.
Voilà, on fera autre chose du côté professionnel. J'ai peut-être une petite idée aussi. Donc maintenant, je vais attendre le fin mars, voir un peu les contacts. Et puis si j'en ai pas, on trouvera autre chose.
D'accord. Et du coup, c'est quoi ta méthode? Parce que, moi, je sais que tu es quelqu'un qui t'implique énormément dans la vie du club et même au niveau des seniors. Il faut savoir, pour la petite anecdote, moi, j'ai joué à l'époque en équipe 5, parce qu'il y a une époque où il y avait 5 équipes à la Vallée. Et Christophe Cuinard, entraîneur de l'équipe 1, responsable technique, quand le mec le plus mauvais de l'équipe 5 venait pas s'entraîner, il l'appelait quand même pour lui dire « Pourquoi t'es pas venu ?» etc. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez rare. Puis même, Franck disait que tu dépannes souvent latéral aussi. aussi pour les autres équipes, c'est enfin ou latéral ou joueur, enfin bref. Et c'est vrai que c'est quand même rare.
Bah, disons que je suis plus humain que éducateur, c'est-à-dire que moi, que ça soit un joueur de l'équipe première ou un joueur de l'équipe 5 ou de l'équipe 4 ou la 3, pour moi, ça reste un homme. Donc, quand il y a des blessures, il faut prendre soin, il faut lui téléphoner, savoir un peu comment ça va. Il faut pas laisser de côté parce qu'on a toujours besoin de tout le monde. Donc, c'est pour ça. Après, bah, quand on était un peu dans une galère, point de vue effectif, bah, c'est vrai que je dépannais comme ça en 2, en 3, en 4, en 5 même. On a fait des matchs à l'extérieur en 5, bah, on y allait, voilà. Je trouve que c'est bien de rendre service, c'est logique. Puis en plus, c'est un peu mon rôle aussi, c'est montrer que un joueur de l'équipe 4 est aussi important que un joueur de l'équipe première. Vu que nous, on n'a pas de prime dommage, vu qu'on n'a pas de fixe, on est tous pareils, tout le monde paye de la licence, tout le monde a le même survêtement, on porte tous le même maillot. Donc je pense que de s'occuper de tout le monde, c'est une logique. C'est logique. Surtout dans les petits clubs comme nous, un peu qui se rapprochent un peu de la campagne, c'est un peu logique qu'on prenne soin de tout le monde parce qu'autour de ces joueurs, il y a les parents qui accompagnent, il y a les copines, les copains et tout ça. Et ce qui fait, ben, le dimanche, on se retrouve des fois 200, 300 personnes autour d'un terrain.
Bah écoute, merci en tout cas pour ces premières réponses, Christophe. On va parler un petit peu de la suite tout à l'heure. Tu restes avec nous, on va marquer une courte pause musicale avec un morceau que tu as choisi. Il s'agit du morceau Michel Sardou, Les Lacs du Connemara. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi ce morceau?
Parce qu'à chaque fois qu'on fait une soirée, Sardou avec cette chanson, il met le feu. Donc,
donc tu as voulu mettre le feu à RKS.
Je vais mettre un peu le feu à la radio.
Tu as bien raison. Merci d'avoir choisi ce morceau. On se retrouve dans un instant sur RKS.
Brûlé au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick. Maureen a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c'est une folie, et que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité.
On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Et on est de retour sur RKS pour l'émission Rien à foutre, cette deuxième partie d'émission avec Christophe Cuina, entraîneur de la Vallée de la Grèce, entraîneur en partance hein, de ce club. Et justement, vu qu'on est en train de parler un petit peu de ton parcours, de ton implication au club, et on va reparler maintenant aussi de ton départ et de la suite, je voulais quand même que le président de la Vallée de la Grèce, Franck Agassi, intervienne avec nous. Il est au téléphone. Salut Franck.
Salut.
Bah, tu es en voiture, hein, c'est ce que je vois. Donc je te prends un petit peu en cours de route. Mais je voulais quand même que tu glisses un mot quand même. T'en avais déjà beaucoup parlé lors de ton passage. Mais je voulais quand même que tu nous parles un petit peu de ce que cette annonce a eu comme effet au club quand on connaît la longévité de Christophe Cuina. 18 ans au club de la Vallée de la Grèce, c'est pas rien.
Bah, c'est pas rien. Pour nous, c'est quand même triste, bien sûr, de le voir partir. Alors après, on se doutait que de toute façon... chaque année, on s'approchait une année de plus près de son départ, c'est comme ça. C'est vrai que 18 ans, ça va laisser des traces, ça va laisser des traces positives, j'espère, en tout cas. Pour nous, en tout cas, le bureau, c'est le cas. Il n'y a pas du tout d'animosité ni de problème entre Christophe et le bureau, ça c'est très important pour nous. Voilà, donc on le voit partir avec regret. Maintenant, on est déjà en train de travailler à son successeur.
Oui.
Christophe a eu la gentillesse et puis le respect surtout, mais on n'en doutait pas, de nous avertir suffisamment tôt pour qu'on puisse se retourner. Et ça dénote aussi son état d'esprit.
Oui. Et du coup, voilà. on parle du successeur. Vous avez déjà rencontré pas mal de monde?
Bah, pas mal de monde. On a rencontré trois candidats aujourd'hui.
Oui.
On n'en rencontrera pas d'autres puisque... les trois qu'on a rencontrés semblent intéressés par le projet. Donc maintenant, c'est à nous de choisir lequel de ces trois candidats sera retenu pour pousser un peu plus loin le travail avec lui pour réussir à trouver l'idéal. Parce qu'on ne veut pas faire du Christophe Cuina, on ne pourra pas.
Oui.
Ce n'est pas les mêmes profils. Donc tant qu'à faire, autant changer complètement de façon...
Là, on l'a perdu. On a perdu, bah c'est ça, ça arrive.
Et dans les virages.
Ça arrive malheureusement dans le quand on est en voiture, hein, voilà. Enfin, des fois, conduire ou téléphoner, il faut choisir. Bon, écoute, c'est pas grave. On a eu l'essentiel quand même du petit mot de Franck. Moi, je tenais quand même à ce qu'il participe. Moi, je voulais quand même qu'on reparle un petit peu du coup de ton départ. Où c'est que j'ai mis mes notes là. Voilà. Du coup, moi, je voulais savoir, est-ce que tu vas... Oui, on était en train de parler de ta méthode aussi. Donc, au niveau du coach, comment tu travailles, toi, avec ton équipe?
C'est-à-dire, comment je travaille
Comment tu prépares une saison comment tu abordes un match voilà.
Bah, disons que j'aborde les saisons. Nous, à la Vallée d'Agresse, à l'heure actuelle, c'est très compliqué parce que pour trouver des recrues qui viennent chez nous, où il n'y a pas de structure, donc c'est compliqué de trouver des joueurs. Donc, ouais. On essaye de trouver des joueurs qui recherchent un peu le niveau R3 et en même temps la convivialité. On arrive aussi à passer par certains joueurs qui ont des copains, ainsi de suite, pour qu'ils nous fassent venir. Mais... moi, si je veux aller chercher des joueurs sur Grenoble, les meilleurs joueurs de Grenoble, souvent, je me casse la gueule, façon de parler, parce qu'ils disent, bah ouais, mais bon, t'as pas de prime de match, t'as pas de terrain, t'as rien du tout. Je dis, bah si, j'ai un petit apéro à la fin du match, si tu veux, mais c'est tout, voilà. Et un sandwich, donc c'est compliqué. Donc on essaye de prendre 2-3 joueurs comme chaque année, qui viennent un peu pour les valeurs du club. Ensuite, avec un staff technique qu'on construit avec le bureau et qu'on essaye de trouver des gens qui ont des valeurs, des gens qui viennent aussi pour le plaisir, puis en même temps pour le fonctionnement du club, c'est-à-dire tout ce qui entoure le sportif, c'est-à-dire les animations et tout ça. On se monte un staff, et puis avec ce staff, je suis un peu le patron de ce staff, et on partage entre nous tout le travail de la saison. Je suis le décideur, pour être clair. Hein, je suis quand même directeur technique, donc je suis décideur. C'est vrai que quand on forme l'équipe première, l'équipe 2, l'équipe 3, l'équipe 4, j'ai souvent un œil dessus pour regarder un peu si on ne fait pas trop jouer des mecs qui ne s'entraînent pas, si on fait pas... on fait attention à tout ça. Ensuite, les objectifs en début de saison sont donnés par le président et par le bureau. On essaye de s'y tenir le mieux possible, malgré les difficultés des structures, mais malgré les difficultés des quantité de joueurs qu'on a à l'heure actuelle. Et puis après, on part sur 2 séances en senior. On fait mardi, vendredi en équipe première. En équipe 2, on fait mercredi, vendredi. Oui. Comme ça, ça permet de croiser un peu les séances. Ça permet que celui qui ne vient pas le mardi, vient le mercredi, ainsi de suite.
D'accord.
On a un préparateur physique qui nous fait tout ce qui est la préparation athlétique. Oui. Donc, on a une vingtaine de minutes par entraînement qui est préparé par lui, sur papier ou sur vidéo, qu'on met en place à chaque entraînement. Et puis après, on met notre touche personnelle sur tout ce qui est tactique, technique et...
Ok.
Et stratégique.
Aussi. D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, moi, je voulais savoir, par rapport à ton départ, est-ce que tu vas conseiller au club... tu as conseillé des noms au club pour ton successeur?
Oui, j'ai donné un ou deux noms. Oui. Deux, trois noms, parce que des gens que j'aime bien, puis tu sais qu'ont les compétences pour prendre l'équipe de la Vallée de la Grèce.
Oui.
Bon, après, ces clubs, ces entraîneurs, je pense, je ne sais pas s'ils ont été contactés par mon club, mais en tout cas, ça serait bien que ce soit eux qui prennent la place, parce que je les connais bien et je pense qu'ils pourraient faire du bon boulot. Surtout qu'ils pourraient continuer ce que j'ai fait, mais surtout à leur façon à eux, et leur façon de travailler est différente. Donc je pense que ça peut faire du bien, ça peut donner un nouvel élan au club, et en même temps, ça pourrait changer un peu les façons de travailler qu'on a l'habitude aussi, même aux joueurs. Donc, ça serait peut-être un déclic pour être encore mieux que ce qu'on est à l'heure actuelle.
D'accord, ok. Et quels seraient les conseils que tu donnerais à ce successeur?
De ne pas faire comme moi, ça serait bien. Parce que pas faire comme moi aussi, de faire comme moi, s'il peut rester 18 ans, ça serait bien.
Ouais.
Mais plutôt de changer la façon de travailler. Parce qu'il ne faut pas que, malgré que moi, chaque année, je change un peu mes entraînements, je change mes contenus, tout ça. Mais il ne faut pas que mes joueurs tombent dans la routine avec l'entraîneur qui va arriver. Donc il faut qu'il arrive avec ses idées, sa façon de travailler, qu'il impose ça, et puis que ça peut faire de la nouveauté pour mes joueurs, et je pense que ça leur fera du bien. En même temps, même pour le bureau, même pour tous ceux qui gravitent autour du club, de changer la façon de travailler va faire du bien.
D'accord. On sent quand même que c'est un petit peu la fin d'un cycle, quand même. Enfin, un long cycle quand même pour la Vallée de la Grèce, parce que moi j'ai vu quand même passer une génération de joueurs avec toi, notamment celle qui t'a surtout aidé à remonter. On disait que tu étais redescendu en district avec le club, et une génération qui après est arrivée, qui t'a aidé à remonter après jusqu'en R2. Est-ce que aussi du coup tu penses effectivement qu'il faut changer aussi de méthode, parce que les joueurs ne sont plus les mêmes, et peut-être les mentalités aussi ont peut-être évolué.
Les mentalités ont beaucoup changé, mais c'est pas qu'à la Vallée de la Grèce. Hein. Les mentalités ont changé de partout, donc chaque club doit maintenant s'adapter un peu à cette nouvelle façon qu'ont les joueurs de réagir, parce que maintenant, c'est des consommateurs, comme on dit. Hein.
Oui.
Bon, après, j'aime pas trop parler du passé, mais c'est vrai qu'à vrai, nous, c'était à fond dans le foot, on avait pas d'excuse de dire qu'il y avait l'anniversaire de la grand-mère, ou du fils, ou de la mère, ou du père. Nous, c'était priorité le football. Bon, maintenant, ça a changé, du coup, on est obligé de faire un peu des... organiser la semaine, c'est-à-dire que moi, le lundi, j'envoie des textos à tous mes joueurs, savoir s'ils sont là cette semaine, s'ils sont là ce week-end, pour être le mardi, pour pouvoir rebondir, commencer à préparer l'équipe première, pour que le jeudi, on prépare la 2, le vendredi, la 3 et la 4.
Ah oui.
On est obligé de passer par des choses comme ça, parce qu'il y a tellement des occupations à côté du foot que des joueurs, maintenant, se permettent de partir en vacances, se permettent de l'anniversaire de la grand-mère, comme je viens de dire tout à l'heure, et ainsi de suite. Donc, on est obligé de préparer les matchs le lundi.
Oui.
Par texto.
Ah ouais, dis donc. Hein.
Ouais, alors qu'avant, c'était le vendredi, on donnait l'équipe, le joueur qui ne joue pas, il ne jouait pas, tant pis, maintenant on est obligé d'attaquer le lundi.
Et puis tu ne te posais pas forcément la question de savoir qui allait être là cette semaine, tu te doutais que tu allais avoir 80% au moins de ton effectif à chaque fois aux entraînements.
Mais ils s'entraînent, ils s'entraînent quand même, mais bon, ils arrivent toujours à trouver une petite excuse, mais il y a tellement des... il y a tellement des loisirs et tout la semaine avec, bon, il y a le foot à 5, le foot time, et après il y a le futsal, le foot corpo.
Il y a quand même une grosse partie aujourd'hui de la population du football isérois qui dit que le futsal a quand même fait un petit peu de mal
à la pratique
du football en club.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il y a aussi ces histoires de, bon, moi j'y vais, au foot time et tout, c'est vrai que c'est bien de jouer à 55, mais bon. Le problème qu'il y a, c'est que c'est dès qu'on arrive novembre, décembre, janvier, février, jusqu'au mois de mars, c'est compliqué.
Le temps.
Dès qu'il y a le soleil qui revient, après, il revient aux entraînements. En plus. Mais je crois que c'est global, hein, mis à part certains clubs, comme Mathieu est là, Cessiné, où je pense qu'il y a une montée en R1 qui est intéressante et tout ça. Peut-être des équipes comme Chirol. Vraiment, les gros clubs ont peut-être moins de soucis que nous. Mais les clubs comme nous, R3, D1, D2, sans parler après d'en bas, D3, D4, D5, c'est vrai qu'on est en difficulté un peu la semaine.
Oui, je comprends. Et du coup, moi je voulais savoir un petit peu, de quoi as-tu envie maintenant ? Qu'est-ce qui ferait que tu dirais oui à un projet si on te contactait ?
L'envie du projet, c'est qu'il faudrait que je tombe sur un club qui est ambitieux. Ambitieux de vouloir, alors qu'on parte de D3, de D4, même s'il faut, D3, D2, n'importe, mais qui soit ambitieux, qui soit structuré, c'est-à-dire qu'il faudrait que retrouver ce que j'ai moi à la Vallée d'Agresse, c'est-à-dire un bureau qui soit derrière l'entraîneur et puis surtout travailleur, un bureau. Après les structures, je suis obligé de les trouver, parce que pire que la Vallée, c'est pas possible. Donc que j'aille n'importe où, je pense que ça sera impossible de trouver un stabilisé ou une annexe qui est un champ de patates. Donc là-dessus, je trouverai quoi qu'il arrive mieux. Et puis surtout, comme j'ai dit, c'est un club ambitieux, un club qui veut construire, mais construire pas sur le court terme, c'est-à-dire pas construire je monte en R3 ou en R2, et puis l'année d'après, c'est fini. Non, c'est sur le long terme. À la Vallée, on a construit sur le long terme. La preuve, ça fait 18 ans qu'on est sur 18 ans, ça fait 17 ans qu'on était en Ligue, donc on a construit sur le long terme. Voilà, je recherche un club comme ça. Mais comme j'ai dit, je partirais même d'en bas, ça ne me dérange pas, au contraire. D'en bas, c'est pas pour dénigrer le bas niveau. C'est juste pour dire que un petit challenge en partant.
Un challenge.
Un challenge comme j'ai fait à Rhône-Poulenc, où je suis parti de promotion d'excellence et on est arrivé en Ligue en 3 ans.
Oui.
Alors je ne dis pas que je vais y arriver sûr, mais je ferai tout pour arriver à l'objectif.
Mais tu as un compétiteur de toute façon, donc on a besoin aussi d'un challenge élevé. C'est juste pour faire du présentiel et de faire
de l'encadrement. Moi, si c'est pour encadrer, qu'il n'y ait pas de compétition, qu'il n'y ait pas de tension, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, il me faut de l'adversité, il me faut un challenge, il me faut de la pression pour justement que je donne le maximum de mes moyens.
Ok, pas de souci. Ben écoute, merci pour ces réponses. On va se retrouver pour une dernière partie. Christophe, je te garde encore 5-10 minutes. On va envoyer une petite pause musicale. J'ai choisi un morceau, le morceau de Benassi Bros, Illusion. On va continuer de mettre le feu dans cette émission avec Christophe Cunas sur RKS.
Imagine how we could believe. Sometimes I wonder why we have no limits. Everything we do is try to find out who we are. We won't stop playing that special game of love. And when we get together, the time is running. I'll be a dream that you'll remember over and over. If only you try me, if only you touch me, I wanna be your illusion.
Foot, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Nous sommes dans l'émission Rien à foot sur RKS avec Christophe Cuina, entraîneur de la Vallée de la Grèce, en mythique entraîneur, hein, 18 ans au club de la Vallée de la Grèce. Christophe, je te propose cette interview avec un petit jeu de questions-réponses pour qu'on puisse se détendre un peu parce que Rien à foot, c'est surtout une émission où on se prend pas trop la tête. Alors le but, c'est de répondre assez rapidement pour que la réponse soit la plus sincère possible et surtout prends également le temps d'expliquer pourquoi. Est-ce que t'es prêt ?
Ok.
Allez, on y va. Quel est ton club de cœur ? T'en as pas ?
J'en ai 3-4.
Vas-y, donne-les.
Je sais pas quel choisir.
Ouais.
Non, c'est tous les clubs où je suis passé.
Ouais.
En tant que joueur et entraîneur, c'est tous mes clubs de cœur.
D'accord.
Après, en niveau, on commence à parler de la Vallée de Grèce, hein, qui a 18 ans. Et après, le reste à côté, il y a quand même Vorep, il y a Rhône-Poulin, qui est à Chambéry. Il y a le FC Jojo, puis le gars que j'ai connu quand j'étais jeune.
D'accord. Le joueur qui t'a le plus marqué dans ton enfance ?
Dans mon enfance, le joueur qui m'a plus marqué, Platini.
Platini, ok. Pourquoi ?
Parce que j'aurais bien aimé tirer les coups francs qu'il tirait. Je n'ai jamais rêvé. Autant j'étais assez technique, mais alors les coups francs, je n'ai jamais rêvé.
D'accord, ok. Le joueur actuel qui t'impressionne le plus ?
Neymar.
Neymar.
C'est, ce joueur, pour moi, il est extraordinaire. C'est un rayon de soleil dans le football à l'heure actuelle.
Oui.
Il fait ce qu'il veut avec un ballon dans les pieds. Il fait ce qu'il veut. C'est extraordinaire. Moi, je sais que j'aime pas le PSG, pour être clair. Mais alors, Neymar, je l'adore. Parce
D'accord.
que je regarde le PSG juste pour voir Neymar.
D'accord.
Et en plus, je trouve que toute sa vie qu'il a autour de lui, elle est extraordinaire. Parce que c'est un pro, c'est le mec, il a l'argent qu'il veut. Mais à côté, il arrive à faire des soirées, il arrive à faire des trucs. Que personne n'ose, où tout le monde se cache, lui se cache pas, il avait fait encore son anniversaire là à Paris, mais il a annoncé à la presse, il se gêne pas de dire des choses, je trouve ça extraordinaire.
Et l'image justement qui est un petit peu négative du football autour de ce joueur-là, qu'est-ce que tu en penses toi ?
Je trouve que c'est honteux de casser un joueur comme ça par rapport à ses soirées, par rapport à tout ça. L'essentiel c'est que pour moi, ce qu'il donne sur le terrain, la preuve, hein, le PSG sans lui c'est rien presque. Hein. Donc c'est inutile toutes ces...
D'accord,
toutes ces
polémiques.
Ouais, toutes les polémiques.
Ok. Est-ce que tu as un joueur que tu aimes moins ?
À l'heure actuelle ?
Oui.
Non.
Et avant ?
Avant, je n'aimais pas trop les défenseurs, qui cassaient un peu tous les joueurs, là, tous les genre Raymond Domenech et toute la série. Là.
Ouais, Dimeco.
Non, Dimeco, j'aimais bien, c'est un Marseillais.
Ouais.
Donc,
ouais.
Non, Moser, Dimeco, j'aimais bien, parce que lui, au contraire, ça coupait tout le monde, donc c'était bien. Mais non, ces joueurs-là qui étaient à vocation plus agressif.
Méchant, quoi.
Ouais, méchant, non, je n'aimais pas trop. Surtout que ça cassait un peu les joueurs qui étaient un peu techniques et puis qui étaient là pour mettre un peu le feu. Moi, je n'aimais pas trop ces joueurs.
D'accord. Alors, je pense connaître la réponse qui va suivre, mais je te la pose quand même. Le coach qui t'a le plus inspiré dans ta carrière d'entraîneur ?
C'est Mickey Selman.
Ouais.
Voilà. Lui, c'est celui qui m'a tout appris. C'est
donc, FC Jojo, Vorep
et tout. Après, je suis quand même passé entre de bonnes mains. Il y a Roger Garcin, quand j'étais jeune. Roger Garcin, c'était extraordinaire, c'était fin, c'était gentil, c'était le, il savait ce qu'il faisait, tactiquement c'était très bon, voilà. J'ai quand même connu aussi les entraîneurs du gars, surtout bon, le pauvre qui est mort, Nano, on l'appelait Nano, c'est aussi pareil lui. On était un peu, c'est avec mon collègue Eric, on était un peu ses deux fils.
Oui.
On était un peu, voilà, il s'appuyait vachement sur nous, donc lui nous a aussi appris beaucoup de choses. Et puis je suis quand même passé par Christian D'Alger, au FC Jojon, quand même, qui a appris aussi, il venait du monde pro, donc il nous a appris un peu certains vices qu'on connaissait pas nous au niveau amateur.
D'accord. Ok. Et moi, je voulais te poser une question, parce qu'on sait du coup que tu quittes ton poste d'entraîneur à au FC Valais de la Grèce. Quelle serait pour toi la fin de saison idéale pour clore ton histoire avec le FCVG ?
Bah, le maintien pour le 9 mai,
oui.
Ça serait extraordinaire.
Oui.
Le 9 mai, qu'on ait 7 points d'avance le 9 mai.
Oui.
Et puis comme ça, on ferait le 17 mai, bah, je ferai mon départ à la Valais à domicile contre Bellecour.
Oui.
Comme ça, j'inviterai tous mes anciens joueurs depuis 2002. Jusqu'à maintenant, 2020, tous mes anciens présidents, dirigeants et tout ça, pour faire
fêter
mon départ, faire la fête, faire une journée conviviale entre nous.
D'accord.
Et comme ça, comme je sais qu'on serait maintenu, on jouerait contre Bellecour, on jouerait sans pression, et puis surtout qu'on finirait ça comme il faut.
D'accord. Si tu devrais retenir un souvenir qui t'a marqué dans ta carrière, le meilleur souvenir, ce serait lequel ?
Le meilleur souvenir que j'ai, c'est déjà les Coupes de France.
Ouais.
C'est tous ces 7e tours qu'on a fait, que ce soit avec le GAS, que ce soit avec le FC Jojo qu'on avait joué contre Avignon, avec Voreb contre Ajaccio, même si j'étais suspendu.
Ouais.
Puis ceux qu'on a fait avec la Vallée de la Grèce, qu'on a joué Chamalières, qu'on a joué Cluse-Sanzier.
Ouais.
C'est les meilleurs souvenirs.
D'accord. Ok. Et s'il y en a un peu plus douloureux ?
C'est toutes les pertes.
Ouais.
Tous les décès qu'on a eus, surtout là, dans les autres clubs aussi, mais c'est moins frais, mais surtout à ceux de la Vallée de la Grèce, tous les décès qu'il y a eu des parents, des dirigeants, ça fait mal parce que c'est des gens qui gravitaient autour du club et on avait l'habitude de les voir dans le siège ou autour du terrain et quand on les voit plus, ça fait drôle.
D'accord. Et est-ce que tu as encore un rêve que tu aimerais réaliser ?
Mon rêve, ça serait d'arriver en 32e de finale et de jouer contre l'Olympique de Marseille.
Ouais.
Ça, c'est mon rêve.
Ouais.
Je crois que j'y arriverai jamais, mais on ne sait jamais. Si des fois je prends un club de R2, puis qu'on arrive à avoir un bon tirage et qu'on arrive au 32e de finale, faire un peu comme ils ont fait le FC Chirol, une année, je
ne
sais plus quelle année, qu'ils aient joué contre Marseille au Stade des Guerres.
Ouais.
J'aimerais bien faire un truc comme ça, parce que ça me permettrait d'échanger un peu avec les maillots, les survêtements et tout ça, avec l'Olympique de Marseille, puis de garder un peu les garder sur moi.
D'accord, ok. Je vais te poser une question sans doute difficile, on va faire beaucoup de jaloux, mais le joueur le plus impressionnant que tu as côtoyé au FCVG, si tu devais en retenir un ?
Il y en a deux.
Ouais.
Trois,
allez.
Un par ligne. Le gardien de but, René Sébastien.
Ouais.
L'attaquant, Manu Gontard et Seb Zorati, le milieu de terrain.
D'accord.
C'est la bonne génération qu'on a eue.
Oui.
C'est trois joueurs différents, mais c'est trois joueurs avec un mental, des valeurs énormes.
Oui.
D'ailleurs, qui me dépannent encore à l'heure actuelle.
Oui.
Il faut le faire, parce qu'ils ont tous 36 ans, 37 ans. Et ils me dépannent encore en équipe 2, en équipe 3.
Ils sont restés au club.
Ils sont restés au club. Alors, je leur téléphone le lundi, est-ce qu'ils peuvent dépanner ? Ils viennent encore. C'est la preuve qu'ils ont vraiment une valeur énorme.
D'accord.
Et en plus, ils ont des qualités énormes, malgré l'âge.
Des joueurs que j'ai vu jouer et qui m'ont moi aussi marqué, et on les embrasse tous les trois et tous ceux aussi bien sûr.
Tous les autres. Hein.
Ouais, tous les autres aussi.
Le problème qu'il y a, c'est que depuis 2002, ça fait quand même beaucoup de joueurs.
Ouais, c'est
je sais pas s'ils vont tous venir le 17 mai, mais ça fait du monde.
Et ouais. Écoute, merci en tout cas pour ces réponses, Christophe. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis, Christophe. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Tu es le bienvenu. Si tu souhaites revenir, n'hésite pas. Et j'espère que tu reviendras pour nous communiquer le nom de ton futur club, car on a tous hâte de savoir quel sera l'heureux élu, quel club sera l'heureux élu. Et j'en profite pour vous rappeler que vous aussi, vous pouvez participer à cette émission. Vous êtes président, éducateur, arbitre, bénévole, joueur, dirigeant ou même simple supporter. Vous souhaitez parler de votre club ou d'un sujet autour du football qui vous tient à cœur. Contactez-nous, vous êtes les bienvenus dans cette émission parce que Rien à foutre, c'est votre émission. Rien à foutre est aussi présent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre page Facebook et sur Instagram. Et je vais te laisser le mot de la fin, Christophe.
Je te remercie pour cette invitation. Ça me fait plaisir quand même de venir donner toute ma vie, là, parce que je viens devant le micro, donner quand même depuis joueur, entraîneur et tout, ça fait quand même plus de 50 ans ça fait, de football, donc ça me fait plaisir. Et puis je vous souhaite longue vie à cette émission là, qui fait du bien dans le football grenoblois, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Comme on a parlé tout à l'heure, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a un peu par internet avec le footiser, tout ça, mais en radio, je crois qu'il n'y a personne qui fait des émissions comme ça, donc c'est très bien, ça permet un peu de mettre en valeur certains clubs et certaines personnes de clubs, donc je trouve que c'est enrichissant pour ces gens.
Merci beaucoup Christophe, et moi je vous dis à la semaine prochaine sur RKS.